L'histoire est comme un clin d'œil furtif aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107 FM. Nouvel épisode consacré à Napoléon et l'exercice du pouvoir.
Le mois dernier, nous nous sommes quittés aux alentours du 18 Brumaire et la chute du Directoire au profit de Napoléon qui devient alors premier consul. Nous sommes en novembre 1799. S'ouvre alors une nouvelle période que certains historiens considèrent néanmoins comme faisant partie de la Révolution française, puisque le consulat, puis le premier empire qui en découle de 1804 à 1814, permet de confirmer ou de supprimer certaines grandes mesures nées de la Révolution française. Au-delà de cet aspect politique et social de la France, l'ère napoléonienne correspondait aussi à l'embrasement militaire de tout un continent.
Pour grand nombre de chercheurs, nous sommes en ce début de 19e siècle dans une véritable charnière qui fait basculer la France, l'Europe et même le monde dans une nouvelle époque. Non seulement Napoléon a transformé le visage d'un pays et d'un continent, mais son action a aussi impacté les mentalités européennes avec l'émergence de grandes idées nationalistes. Ce nationalisme européen est tout au long du 19e siècle le principal moteur de tous les soubresauts géopolitiques. Et c'est sans doute là l'un des principaux héritages de Napoléon.
Revenons à 1799 lorsque Napoléon prend avec l'aide de Sieyès le pouvoir en France. Sa grande popularité lui permet de proposer aux citoyens une nouvelle constitution dès le 13 décembre, qui est très largement approuvée par les Français, ayant le droit de vote évidemment, 3 millions de oui contre seulement 1500 non. Pour faire simple, le nouveau régime prévoit que le pouvoir exécutif soit partagé entre 3 consuls élus pour 10 ans. L'un de ces 3, le premier consul, a toutes sortes de prérogatives. Nomination des juges, membres de l'administration, ambassadeurs, initiative des lois préparées par un conseil d'État qu'il nomme et un droit de guerre et de paix. Les deux autres consuls, en l'occurrence Cambacérès et Lebrun, n'ont que des voix consultatives. Le pouvoir législatif est quant à lui divisé entre 4 chambres, dont le conseil d'État. Autant dire que le premier consul a une très large marge de manœuvre. Sous des apparences républicaines, le premier consulat fonctionne finalement davantage comme une monarchie dont Napoléon est l'homme fort. Mais sous ces apparences, la constitution de l'an 8 a pour mérite de rassembler les partisans de la Première République, mais aussi les opposants à la Révolution qui honnissaient le directoire. Au-delà de cette constitution, Napoléon travaille rapidement à la réorganisation administrative du territoire. Le 17 février de l'an 1800, il fait adopter une loi rédigée par Jean-Antoine Chaptal, un natif de Badaroux, qui installe dans chaque département, arrondissement et commune un représentant du premier consul. Ainsi apparaissent les premiers préfets, sous-préfets, maires qui sont assistés par un conseil nommé par l'État central. Nous revenons donc à un pouvoir extrêmement centralisé et convergent de façon quasi systématique sur sa figure tutélaire, le premier consul, Napoléon Bonaparte. Cette rapide et efficace réforme du pouvoir donne à Napoléon plus de pouvoir que Louis XVI en 1789. Pour pouvoir pérenniser sa position à la tête du pays, Napoléon se fixe aussi pour première mission de pacifier la France après 10 ans de lutte fratricide. Il travaille donc à la réconciliation des Français. C'est donc rapidement l'abrogation de la loi des otages, la libération des prêtres réfractaires et la suppression de la liste des émigrés. Et ça marche puisque la plupart rentrent en France et récupèrent leurs biens non vendus. Par ailleurs, les quelques royalistes encore actifs en Normandie ou en Bretagne sont réduits à des actes de brigandage qui sont rapidement matés, mais aussi à des complots, ce qui permet à Bonaparte de s'affirmer un homme d'ordre. En 1802, quasiment tous les immigrés sont amnistiés.
Pour trouver toujours plus de soutien et asseoir davantage son autorité en France, Napoléon abandonne la politique de la liberté des cultes instituée pendant la Révolution. Il souhaite rétablir l'unité du catholicisme et placer l'Église sous sa dépendance pour allier tous les catholiques à son gouvernement. Il se rapproche pour cela du pape Pie VII, dont les rapports avec la France avaient été rompus 10 ans auparavant. Finalement, en juillet 1801, les deux parties s'entendent et signent un concordat qui régit l'ensemble des rapports entre le consulat et le pontificat. Le but de cette convention est de liquider le passé pour préparer l'avenir par des concessions mutuelles. Le catholicisme est proclamé religion de la grande majorité des Français. Le culte est déclaré public et garanti par l'État. En échange, le premier consul nomme les évêques qui prêtent serment au gouvernement. Napoléon rétablit aussi l'esclavage pour relancer l'économie des colonies et être sûr de bénéficier de l'appui des propriétaires des grandes fermes coloniales qui assurent à la métropole l'acheminement du sucre qu'elle peut revendre dans une large mesure aux pays d'Europe du Nord. Sans compter que les grands ports atlantiques dépendent très largement de ce commerce-là, ainsi que du commerce triangulaire. Pour pacifier le pays, il est primordial que la France ait une économie saine pour que le calme perdure dans des grandes villes de l'Ouest, notamment à La Rochelle, près de la Vendée des Chouans, royalistes de la première heure. Napoléon reste néanmoins un homme d'action puisqu'il parvient rapidement après son ascension au pouvoir à rétablir la position favorable de la France en Italie lors du franchissement du Grand Saint-Bernard en mai 1800 et sa grande victoire à Marengo en juin. Une fois à sa position confortée, il en profite pour faire la paix avec l'Autriche fortement affaiblie et toujours dans un souci de pacifier le pays, pour consolider sa position à la tête du pays, il se rapproche de l'Angleterre qui se retrouve isolée et signe le 27 mars 1802 la paix d'Amiens.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Barthas 107 FM.
Fort de tous ses succès, Napoléon est en mesure de se faire nommer consul à vie par un plébiscite le 29 juillet 1802. Avec cet événement, le consulat se monarchise davantage. Le premier consul est entouré d'une véritable cour royale aux Tuileries. La Saint-Napoléon est même fêtée à partir du 15 août 1802, et l'effigie de Bonaparte apparaît sur les pièces de monnaie, bien que l'inscription République française y perdure jusqu'en 1808. De même, pour remplacer la noblesse d'épée et la noblesse de robe de l'Ancien Régime, Napoléon crée une nouvelle élite en instituant la Légion d'honneur. Ce faisant, il s'assure de la fidélité sans faille des meilleurs éléments et aiguise l'appétit des plus ambitieux pour le servir. Pour faciliter son exercice du pouvoir, il s'attache enfin à uniformiser l'ensemble du droit. C'est d'ailleurs l'une des premières tâches qu'il lance lorsqu'il arrive au pouvoir, puisque depuis août 1800, une commission de juristes travaille à l'élaboration d'un seul texte de loi qui serait le même pour tous les citoyens français. Ce travail aboutit le 21 mars 1804 avec l'adoption du Code civil qui coordonne à l'échelle de toute la nation le droit révolutionnaire, le droit écrit, le droit coutumier, la jurisprudence de tous les parlements du territoire et le tout dans un sens conservateur et coutumier.
Extrait du Code civil, article 8, tout Français jouira des droits civils. Article 544, la propriété et le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le Code civil napoléonien regroupe l'ensemble des lois qui permettent de codifier les interactions sociales, politiques, économiques et même religieuses de tous les citoyens de la République. Il défend essentiellement la laïcité absolue du droit, l'individualisme, l'égalité devant la loi, l'abolition du droit d'aînesse et des privilèges, la défense du droit de propriété, entérinant par là même les grands principes de 1789. Mais le Code civil est aussi une démonstration de la volonté de centralisation du pouvoir et d'autoritarisme qu'il souhaite mettre en place. Cela se traduit d'ailleurs aussi par sa réforme sur l'enseignement, puisque l'État met la main sur ce domaine, de sorte à créer des sujets dociles et fidèles au consulat. C'est dans cet esprit qu'il remplace les écoles centrales par des lycées recevant des élèves internes, portant un uniforme et soumis à une discipline intérieure militaire. Les professeurs hiérarchisés, astreints au célibat, obéissent à un règlement sévère. Le ministère de la police prend aussi une place de plus en plus importante et permet le maintien de l'ordre. Les journaux sont eux aussi placés sous la coupe du consul via la censure qui contrôle l'information. Elle est si stricte que rapidement, le nombre de journaux à Paris est réduit à 12 dès le début du consulat, puis à 8.
Toute cette période du consulat a donc eu pour but d'affirmer, de renforcer la position de Napoléon Bonaparte. Durant les 4 ans du consulat, il parvient à réconcilier l'ensemble des Français. Pour cela, il offre le pardon à ceux qui ont lutté contre la Révolution, tout en confirmant les grands acquis de l'été 1789. Cette pacification du pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur avec la paix d'Amiens, lui permet de relancer l'économie, de réorganiser l'administration et la fiscalité, et de mettre la main sur l'enseignement, d'uniformiser le droit sur tout le territoire afin de créer une sorte de corps national. De même, toutes ces réformes contribuent au renforcement de son autorité et la centralisation du pouvoir entre ses mains, finalement. Nous nous apercevons que le consulat apparaît comme une phase transitoire entre la Première République née en 1792 dans le grand feu de la Révolution, et le retour d'une forme de la monarchie absolue. Cela est si vrai que Napoléon affiche une grande ambition. Dès 1803, il mène une politique impérialiste et, intervenant en Suisse à travers l'acte de médiation de 1803, qui transforme sa constitution et se fait nommer président de la République italienne, qui se limite à cette époque au nord de la péninsule, la France accroît également son influence sur les provinces unies, les Pays-Bas actuels ainsi que le Saint-Empire. Cette situation insupporte évidemment l'Angleterre qui craint, je cite, que cette paix rongeante et envahissante ne détruise l'équilibre des puissants en Europe. C'est donc la rupture de la paix d'Amiens dès le mois de mai 1803. France et Angleterre entrent dans une guerre qui ne cesse qu'en 1815. En 1804, des royalistes français menés par l'ancien meneur des Chouans, Cadoudal, soutenu par les Anglais, tentent d'enlever le premier consul. La conspiration déjouée incite Bonaparte à frapper cette opposition de terreur par un coup sanglant. Le rapt, le jugement et l'exécution le 21 mai 1804 d'un membre de l'ancienne dynastie royale, le duc d'Angien. Pourtant complètement étranger au complot. Peu à peu, le Sénat quasi unanime proclame Napoléon Bonaparte empereur des Français le 18 mai. Le 2 décembre 1804, le pape Pie VII se déplace à Notre-Dame pour sacrer le nouveau souverain. N'oublions pas néanmoins que c'est Napoléon qui s'est couronné lui-même.
Nous sommes en 1804. Bonaparte a 35 ans. Sa popularité est immense. Les Français ont suivi avec enthousiasme ses victoires successives lors des campagnes d'Italie et ils savent que le drapeau français flotte en Égypte. Voilà déjà 5 ans qu'il préside au destin de la France depuis qu'il a réussi, après un coup d'État, à se faire nommer premier consul. Le peintre Jacques-Louis David est l'un de ses fervents admirateurs. D'ailleurs, il s'est lancé dans un portrait du premier consul, un tableau qui restera inachevé. Quelques années plus tard, David peint « Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard », un tableau équestre très fougueux qui deviendra l'une des représentations les plus connues de Bonaparte. Le 18 mai 1804, le premier consul Bonaparte est proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Napoléon tient à ce qu'une grande cérémonie religieuse clôture les festivités et donne une dimension sacrée à son avènement. La date est fixée au 2 décembre 1804. En septembre, Napoléon s'adresse à David, promu premier peintre de l'empereur, pour lui passer commande d'un grand tableau qui devra conserver la mémoire de cet événement exceptionnel. Voici donc la cérémonie du sacre, telle qu'elle est immortalisée par le fameux tableau de David, le sacre de Napoléon. Le tableau est au musée du Louvre à Paris. Et bien sûr, comme il se doit pour être à la hauteur d'une telle cérémonie, il est monumental. 9,79 m sur 6,21 m. Nous nous trouvons à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame, dans le cœur de la cathédrale. Grandiose déjà le cadre avec les hautes colonnes de marbre et les rideaux rouges et les tentures. La lumière baigne les personnages principaux et notamment Napoléon en plein centre.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM.
De manière générale, l'Empire conserve les institutions du consulat. Mais le pouvoir est encore plus centralisé et autoritaire. Tous les corps d'État sont subordonnés à l'empereur qui détient un pouvoir absolu. La Première République française disparaît, même si le mot reste dans les textes jusqu'en 1806. L'Angleterre, isolée, s'empresse de trouver des alliés. En 1805, elle forme avec l'Autriche, la Russie et les deux Siciles la troisième coalition, dont le but est de limiter l'influence de Napoléon sur la Méditerranée. Cela débouche notamment sur la grande bataille navale de Trafalgar, le 21 octobre 1805, qui détruit la flotte française. Dès lors, une invasion de la Grande-Bretagne devient impossible. Napoléon s'appuie donc surtout sur la grande armée qu'il a montée pour remporter la guerre. Dès le 1er octobre 1805, il franchit le Rhin et avance vers Vienne. Ulm capitule le 20 octobre. L'Empire austro-hongrois tombe à son tour après la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805. Elle permet l'éclatement de la troisième coalition et à l'Empire de s'agrandir de nouveaux territoires en Bavière et au nord de l'Italie. Qui plus est, elle offre à Napoléon les coudées franches pour subordonner plus étroitement les pays voisins en dotant l'Empire de vassaux unis au suzerain par des liens de parenté. Ainsi sont créés les royaumes de Hollande, où son frère Louis est nommé roi, et de Naples, où c'est son frère Joseph qui est choisi, anéantissant par là d'ailleurs le royaume des deux Siciles qui faisait partie de la troisième coalition. Surtout, il détruit le Saint-Empire romain germanique millénaire pour établir de nombreuses alliances avec les grands princes du sud de l'Allemagne. C'est par exemple la naissance de la Confédération du Rhin, unie à la France par une alliance très étroite.
Et cet échec de la coalition n'incite pas pour autant l'Angleterre à faire la paix malgré des tentatives de négociation en janvier 1806. Au contraire, elle s'empresse de former une nouvelle coalition avec la Russie, la Suède et la Prusse. Cette dernière, qui craignait être repoussée davantage sur les marges orientales du défunt Saint-Empire et d'être vassalisée, comme l'ont été les Provinces Unies, prend la tête de la lutte contre Napoléon. Elle est d'ailleurs en cela largement encouragée par les Britanniques, mais la Prusse est écrasée par les armées napoléoniennes à Iéna le 14 octobre 1806. Berlin est prise le 27 et le roi prusse Frédéric Guillaume III doit fuir à Königsberg, beaucoup plus à l'est. Le 21 novembre 1806, toujours présent à Berlin, Napoléon organise le blocus continental dans le but de couper l'Angleterre de ses alliés, mais aussi de ses partenaires commerciaux. Et il doit surtout faire maintenant face à la Russie du tsar Alexandre Ier. Il se lance donc dans une difficile campagne en Pologne en plein hiver. Frôlant le désastre à Eylau, le 8 février 1807, il parvient néanmoins à remporter une grande victoire décisive à Friedland le 14 juin 1807, qui le place en position très favorable vis-à-vis de la Russie et la Prusse pour signer la paix à Tilsit en juillet. Il rencontre le tsar sur un radeau au milieu du fleuve Niemen et négocie avec lui. Ces négociations débouchent sur une alliance franco-russe. Le tsar reconnaît les rois de Naples et de Hollande, s'engage à adhérer au blocus continental et abandonne ses ambitions méditerranéennes. La Prusse, quant à elle, est la grande perdante de l'affaire. Elle est largement amputée d'une grande partie de son territoire qui est partagée entre les empires français et russes. À l'ouest est créé le royaume de Westphalie, confié à Jérôme Bonaparte.
La politique napoléonienne semble donc triompher partout, d'autant que parallèlement à la campagne de Prusse et de Pologne, la Toscane et le Portugal sont envahis. L'Angleterre n'a plus d'alliés sur le continent, mis à part la Suède, et elle subit un ralentissement de son activité commerciale à cause du blocus continental. Mais l'économie française souffre, elle aussi, de ce blocus. Les ports tombent dans le marasme, et tandis que l'Angleterre, maîtresse des mers, pallie les conséquences du blocus en développant son commerce non européen, le mécontentement grandit sur le continent, notamment dans les ports de Belgique, de Hollande et de Russie. Finalement, la seule chose qui permet la prospérité économique de la France est le pillage des territoires conquis par Napoléon. Ce dernier est donc obligé de poursuivre ses campagnes militaires, d'autant plus qu'il veut renforcer le blocus continental pour ruiner l'Angleterre.
Clin d'œil à l'histoire sur Radio Bartas 107 FM.
C'est pourquoi il se lance dans une nouvelle campagne en Espagne. C'est pourquoi Napoléon... Je vais y arriver. C'est pourquoi Napoléon se lance dans une nouvelle campagne en Espagne. Cette dernière, pourtant alliée de la France depuis 1796, est soumise par Napoléon en mai 1808, qui nomme son frère Joseph roi. Ce dernier est remplacé à Naples par Murat. Mais tout le pays se soulève contre lui. Napoléon doit rappeler une grande partie de son armée restée en Prusse pour venir mater ses soulèvements. Souvent dans le sang, comme c'est le cas à Madrid le 2 mai. Le 22 juillet 1808, et pour la première fois, une armée napoléonienne doit capituler à Bailén. Cette défaite a de lourdes conséquences, car Joseph doit quitter précipitamment Madrid. Les Anglais profitent de cette brèche pour prendre le contrôle du Portugal. Elle redonne aussi courage aux adversaires de Napoléon, comme l'Autriche et la Prusse qui se réarment.
Dans la foulée se forme la cinquième coalition entre l'Angleterre et l'Autriche. Contraint de faire face à cette nouvelle menace, Napoléon quitte la péninsule ibérique et laisse le commandement à son frère Joseph pour rétablir l'ordre en Espagne. Mais ce dernier est peu efficace, il ne parvient pas à coordonner l'action de ses généraux. Ainsi, le conflit s'enlise en Espagne et à partir de 1810, les Français reculent tout en payant un très lourd tribut dans cette guerre sans issue. 400 000 soldats y meurent. La nouvelle guerre que Napoléon, affaibli, mène à l'Autriche est difficile car le réarmement de l'Empire a permis la mobilisation de 550 000 hommes. Mais la victoire de Wagram, le 6 juillet 1809, permet de considérablement affaiblir l'armée de l'empereur d'Autriche et ce dernier est contraint de céder aux dures conditions de la paix de Vienne signée en octobre 1809. l'Autriche voit une grande partie de son territoire lui être retirée, notamment en Italie. Elle doit par ailleurs adhérer au blocus continental. Son armée est réduite à 150 000 individus et elle doit payer une énorme indemnité à Napoléon. Séparée de la mer, surveillée et affaiblie, elle ne semble plus être une menace pour Napoléon. De sorte à s'assurer sa fidélité, ce dernier pense aussi à sa succession et fait dissoudre son union avec Joséphine de Beauharnais qui ne lui a pas donné d'enfant. Il épouse l'archiduchesse Marie-Louise en avril 1810, qui lui donne d'ailleurs un fils, né le 20 mars 1811.
L'Empire français est alors à ce moment-là sans doute à son apogée. D'autant plus que les États pontificaux sont annexés en mai 1809, de même que la Hollande et une partie du nord de l'Allemagne en 1811. La France impériale compte alors 130 départements. Cependant, de nombreux signes inquiétants viennent troubler le tableau. Des grands conseillers de Napoléon, comme Talleyrand, se détachent de lui. Pie VII, privé de ses états et emprisonné, excommunie l'empereur. Les relations avec ses sujets catholiques s'en trouvent dès lors fortement détériorées. Surtout, le sentiment national se développe considérablement dans les pays occupés où Napoléon a imposé le code civil notamment. C'est le cas de l'Espagne et en Italie. La Prusse connaît elle aussi cet engouement nationaliste qui se fonde sur un fort sentiment anti-français.
La Prusse se modernise par une série de réformes administratives et militaires qui vont faire d'elle une puissance redoutable. En Russie, le poids du blocus continental se fait de plus en plus lourd et l'alliance avec la France s'effiloche fortement pour n'être en fait plus qu'un souvenir en 1811. Tout démontre donc que nous sommes à l'aube d'un changement de dynamique que nous étudierons plus en profondeur la prochaine fois.
C'était Clin d'œil à l'histoire, présenté par Raphaël Eben sur Radio Bartas, 107 FM.